ça. Ça va. Finalement, vous avez pas mis vos tabliers. Vous avez emmené votre des tabliers.
Tu peux lui présenter qu'est-ce que
le pad thai, c'est le nuit. On fait bouillir, on fait cuire le nuit. Et après ça, il y a la viande coupée en lanières et aussi le liquide de tamarin. On peut ajouter le poudre cayenne dedans, c'est ça. Et arachide, pour côté croquant. Arachide grillé. Et aussi le coriandre et échalote coupée en petites rondelles. C'est tout. Et là, tous les ingrédients sont prêts. Je pense que je vais cuisiner maintenant. Ça fait la deuxième fois. J'ai cuisiné ici et j'ai bien aimé parce que c'est plus économique. Ça, si on calcule environ les mets qu'on a cuisinés, ça à peu près $1 ou $2 par portion. Donc c'est plus économique et c'est plus nourrissant. Et c'est nous qui payons pas et on connaît les ingrédients qu'on met. C'est plus sain. Ouais. C'est ça. Et on économise du temps et aussi ça nous fait rencontrer des amis, avoir des amis, des nouveaux amis et apprendre des nouvelles cultures, nouvelles cuisines. C'est enrichissant pour moi.
On met une carotte dans le pad thai?
Non.
Là, on est à la cuisine du CLSC de Parc Extension. Il y a beaucoup de gens qui participent aux cuisines collectives qui sont latino-américains. Donc, il y a quand même pas mal de groupes qui sont autour de la cuisine latino-américaine. Là, il y avait juste seulement une animatrice, donc il y avait moins de groupes de cuisine. Moi, j'ai été engagée comme animatrice, donc je vais essayer d'en repartir d'autres. Le groupe Halal était comme arrêté, maintenant je l'ai reparti. Il y a un groupe végétarien que je veux partir vraiment bientôt, je pense la semaine prochaine, parce qu'il y a vraiment une demande pour ça. C'est ça. À part ça, je pense qu'il y a un groupe de nourriture plus nourriture créole. Mais ces gens-là veulent vraiment se... aller aussi dans différents groupes, parce qu'à un moment donné, oui, c'est bien de faire la nourriture latino-américaine, mais tu veux apprendre des autres. C'est aussi pour ça que tu fais de la cuisine collective. C'est parce que tu as envie d'avoir un savoir-faire, puis de transformer la manière dont tu manges. Tu as envie de manger autre chose. C'est une découverte pour toi. T'sais.
Le tamarin, c'est un autre goût que le citron. Mais ça, c'est un goût acide. Le pad thai, c'est trois goûts, acide, salé, sucré.
Le pad thai?
Oui.
Trois goûts. Moi, j'appelle ça cuisine francisation. Ça s'appelle manger en apprenant le français, c'est tellement bon, quelque chose comme ça. En tout cas, bref. C'est deux ateliers. Et donc, c'est ça. Donc, la première séance, je leur présente tous les ingrédients qu'on a besoin pour les recettes. Fait qu'un après l'autre, je leur fais des petites devinettes, justement, comment ça s'écrit. C'est quand même assez pédagogique. Et je leur explique aussi c'est quoi une cuisine collective. Et justement, la deuxième séance, c'est une cuisine collective. Je mets une grande table avec tous les ingrédients, tous les ustensiles, puis juste avant de commencer, on révise tout. Puis après ça, je les laisse aller. C'est un travail de collaboration, c'est pour pratiquer le français, vraiment pour que ça soit pratique, que ça soit une situation réelle, tu sais, c'est bien mieux pour vous que n'importe quelle mise en scène qu'on fait tout le temps, tu sais. Donc, une façon de... Ça, de faire un échange culturel et en même temps linguistique.
Dans le temps de Noël, c'est ça, il y avait pour les parents puis les gens à faible revenu, il y avait trois choses qu'on pouvait demander ou que les gens pouvaient avoir, en tout cas à notre organisme. Il y avait les paniers de Noël, des paniers spéciaux pour les fêtes, là, ils donnaient vraiment plus, puis... C'est prévu chaque année. Après ça, on reçoit des chèques de la Gazette, de l'argent qu'on peut dépenser comme on veut. Là. C'est pas dans une épicerie ou quelque chose. Là. C'est vraiment pour aider les familles à cette période-là de l'année. Puis on avait aussi le magasin Partage, ce qui est un projet de quartier. Et c'est une épicerie communautaire, deux fois par année, une en septembre, une dans le temps de Noël. Donc, c'était une épicerie où les gens payaient 10 % de ce qu'ils achetaient. Souvent, c'est ça le problème aussi avec les gens du quartier, c'est que, oui, tu reçois des choses de Moisson Montréal, puis des fois, c'est, fou, tu sais, des boîtes de conserve, des repas en boîte, là. Moi, j'aime vraiment pas ce genre de choses. Je sais qu'il y a du monde qui mange pas ça, là. En fait, il y a plein de produits que les gens mangent pas. Donc, c'est sûr que tu peux pas te dire d'un côté, ben là, les gens, tu sais, ils doivent pas chialer parce qu'on leur donne quelque chose, c'est gratuit, donc ils doivent pas chialer, mais en même temps, c'est, en tout cas, selon moi, c'est mieux d'avoir l'épicerie communautaire. Puis mon souhait, c'est que ça soit, tu sais, que ça soit toute l'année. Hein.
Ça, c'est mon coupa.
Ah, OK. Celui-là, tu
oui,
veux?
Oui, okay. Si, okay. Oui. OK. Ça, c'est mon coupa. Oh, c'est mieux.
Oui.
Le projet enfant... C'est un projet qui a commencé il y a 2 ans. C'est avec les écoles primaires du quartier. On a toute la classe de petits chefs, comme je les appelle. Donc, ils arrivent, d'habitude, ils ont déjà lu la recette avec leur professeur. Puis là, moi, je leur fais un petit 10 minutes sur les aliments qu'on va utiliser. Je leur pose des questions. Qu'est-ce qui pousse au Québec? Qu'est-ce qui pousse pas au Québec? Par exemple, une olive, ça vient de quel arbre? Tu sais, bon, des choses comme ça. Après ça, c'est les étapes de la recette, une par une, puis c'est vraiment les enfants qui les font.
C'est ça qui donne un bon goût cuisine asiatique.
OK, OK.
Ah, les
là,
sucrés.
Attention,
hein.
Il va... Bouh!
OK.
Puis à la fin, on a un cinquième atelier que je suis en train de faire en ce moment. C'est sur le guide alimentaire canadien. Puis on l'a vraiment transformé pour le rendre ludique avec des petites images pour les premières années. Donc, ils doivent placer les images dans les bonnes cases. Qu'est-ce qui est un fruit, un légume? Qu'est-ce qui est, bon, de chaque groupe alimentaire? Ils doivent identifier avec le mot. Donc, ils doivent savoir le mot en français, ce qui est tout un défi pour les enfants ici dans le quartier. Parce que souvent, la langue qu'ils parlent à l'école, c'est pas la langue qui parle à la maison, puis c'est où est-ce que tu vois les aliments comme ça? Tu les vois à la maison. Donc, il y en a plusieurs qui voient, par exemple, la cardamone, puis ils disent « Ah, oh, je sais, c'est quoi? » Mais ils ne savent pas le dire en français. Ils savent le mot en ourdou, ils savent le mot bon. Donc, c'est ça.
Là, on attend, on fait dorer un peu l'ail. Attends qu'il soit doré, après, on va mettre.
La sécurité alimentaire dans certains milieux, puis souvent au gouvernement aussi, c'est conçu un peu comme on s'assure que les gens ont de quoi manger. Donc, par exemple, ça peut comprendre tous les services de dépannage alimentaire en tout genre et certains services, par exemple, qui vont être assurés pour les enfants les plus pauvres dans certaines écoles des quartiers les plus pauvres de Montréal ou de d'autres villes. Nous, on considère que c'est essentiel parce qu'on ne va pas laisser les gens crever de faim, mais que c'est des mesures vraiment, justement, de dépannage. Ce n'est pas des solutions à moyen et à long terme. Il faut aussi viser plus large que ça. Il faut viser à l'autonomie alimentaire, c'est-à-dire la possibilité individuelle et collective de pouvoir se nourrir adéquatement, d'avoir les moyens pour le faire, d'avoir des choix par rapport à ça aussi. La sécurité alimentaire, c'est une espèce de police d'assurance, d'une certaine façon. C'est comme le minimum auquel le gouvernement se pense tenu, mais dans certains cas, c'est pas suffisant, c'est bon. Quand tu vas faire la file pour un panier, tu sais pas ce qu'il va y avoir dans ton panier, puis il faut que tu t'organises avec ce qui est là. Tu vas le manger la plupart du temps, parce qu'il faut bien, mais des fois dans les paniers, ben, on a de la nourriture qui est pas de super... qui mangeable, comestible, mais qui n'est pas forcément de haute qualité. Des paquets de biscuits au chocolat, puis des machins avec des boissons hyper super énergisantes, puis des colas ou des affaires comme ça, qui ne sont pas recommandées non plus comme base de l'alimentation. Alors, si c'est ça qui est disponible dans la semaine, si c'est ça qu'on me donne pour nourrir ma famille, on va l'utiliser quand même, là. L'autonomie des personnes, c'est pas ça. Ultimement, c'est pas de dépendre d'une quelconque forme d'assistance perpétuelle. Qu'à l'occasion, parce que vraiment j'ai un coup dur, j'ai besoin d'aller recourir à ça, ça peut arriver à n'importe qui, là, je veux dire. Mais quand ça devient régulier et institutionnalisé, on peut se questionner sur le genre de société qu'on a, par exemple. C'est pour ça que nous, on parle d'autonomie. On parle de la souveraineté alimentaire aussi dans le sens de, par exemple, ce qui se produit au Québec. Pour nous, ça devrait être d'abord pour nourrir les gens qui habitent au Québec et non pas pour envoyer prioritairement pour se mettre de manière concurrentielle sur les marchés étrangers puis qu'on envoie les plus grandes quantités de, je sais pas moi, de crabes des neiges ou de ci ou de ça, de crabes, qu'on envoie ça vers le Japon parce que eux représentent un marché plus important puis plus payant. Il y a des chefs cuisiniers aux îles de la Madeleine cet été qui disaient qu'ils n'arrivaient pas à avoir de poisson. C'est une île entourée d'eau, puis ils n'arrivent pas à avoir de poisson pour nourrir dans leur restaurant pour offrir des plats de poisson et qui s'approvisionnaient à Montréal. C'est vraiment, vraiment tout à fait ridicule, là. C'est pas qu'on doit pas de fermer totalement le commerce extérieur, mais qu'on fasse une priorité de dire on a besoin de nourrir d'abord notre population et de mettre en place tous les mécanismes pour favoriser ça et dans une perspective de développement durable avec nos produits locaux d'abord, parce que c'est ça qui est le moins coûteux, c'est ça qui est le plus adapté à nos besoins, à notre santé, à ce qui se développe le mieux ici, à ce qui se produit le mieux ici, je veux dire. Puis qu'après, nos surplus ou qu'on aille chercher d'autres produits pour compenser certaines choses qu'on n'a pas. Oui, bien sûr, on n'est pas en train de rêver d'un monde ou de souhaiter un monde totalement microscopique, hermétique et tout, c'est pas ça. Mais il y a quelque chose, il y a quand même un principe de se dire... Il faut qu'on puisse nourrir les gens ici, d'abord, correctement. Il n'y a personne, probablement, qui meurt de faim au Québec, mais il y a des gens qui souffrent de la faim, ça c'est très clair. Puis il y a des gens qui sont malades à cause de ça aussi, d'une mauvaise alimentation. Quand les dépenses essentielles comme le chauffage puis le logement, par exemple, augmentent, la dépense compressible, c'est entre autres l'alimentation puis les médicaments. Ça fait que ça fait que les gens mangent moins bien, vont acheter des... C'est fou, mais les boissons gazeuses sont encore moins chères que le lait, là. Puis en plus, la promotion, on fait pas mal plus de promotions sur les boissons gazeuses que sur les jus au lait, puis les jus... Les jus, même les jus concentrés, congelés, sont rendus prohibitifs. Alors, du jus frais, c'est... Alors, c'est vraiment... C'est ça. Il n'y a pas beaucoup d'aide. On laisse théoriquement pas personne mourir de faim, mais on laisse vraiment des gens avoir faim, encore, malheureusement, un peu partout. Ou à se coucher en ayant mangé des produits de mauvaise qualité, trop gras, trop salés, trop sucrés, parce que c'est ça qui est disponible, accessible physiquement et financièrement pour eux. Ce qui est une honte dans un pays comme le nôtre, là, c'est vraiment... C'est sûr qu'il y a clairement un enjeu de contrôle et de partage des richesses aussi, là. Ça, c'est un autre débat, mais c'est... Je pourrais vous sortir des statistiques, j'ai pas de mémoire folle, mais sur le nombre de familles qui ont accès à la banque alimentaire encore ou à des paliers de nourriture donnée, c'est phénoménal et ça ne va qu'en augmentant. Et de plus en plus, on voit que c'est des travailleurs pauvres. C'est non seulement des personnes qui étaient sur la sécurité du revenu, mais c'est aussi de plus en plus des travailleurs au salaire minimum, des couples dans des cas avec une famille, avec des enfants, puis qui n'ont pas le moyen, une partie du mois, qui n'ont pas le moyen d'aller à l'épicerie carrément, puis qui vont venir faire une file ou s'inscrire dans une banque alimentaire, par exemple. Alors que ces gens-là travaillent 35, 40, 45 heures par semaine, mais ils n'y arrivent pas.
Parce que ça bouge ici. On va
okay, je peux mettre comme
tu
ça.
Veux, tu peux après, m'aider, oui. Oui. Tu peux m'aider.
Oui. Donc, Neila a prenait 4 portions. Comment on divise?
On est 3, c'est ça?
Oui.
Ou 4 personnes?
Oui, on est 3.
3 personnes.
On divise comme ça. Une louche. Et c'est tout.
Ouais. OK, mais qu'on dit qu'on fait...
Avec
la
louche.
Oui. C'est vrai.
OK, fait que ça fait 3 pour Naïma, 4 pour Roxane, puis ça est 4.
Oui.
C'est bon? OK, fait que je calcule ça. Ça, on dit-tu que c'est 2 portions?
On va voir. On va supposer oui, que c'est 2.
En fait,
moi, une portion.
Elle peut le 3.
Une, OK, une portion, c'est l'essentiel que vous aurez plus de portions.
OK, ça fait une
portion.
OK, qu'est-ce qu'on avait dit? C'est juste une portion pour... Non, c'est tout. Bon.
Ouais.
OK, là, je suis rendue à 3.
Là, on va prendre notre quatrième.
Oui.
Mais je pense qu'on va être exactement correct pour que ce qu'on avait dit. OK. Et
merci.
Voilà.
Merci.
Et puis les autres, c'est pour moi.
Oui. Voilà. Merci.
Voilà.
Ah là là. Ah, je peux goûter ici.
Merveilleux, hein?
Oui.
Ouais.
Magnifique.
Oui. Ah, c'est bon.